Radio Kapi. Oh, Kapi.
Affrontement hier entre les miliciens de la CODECO et ceux de la milice Zaïre à Tchangana et Mandobo, deux sites miniers du territoire de Djougou en Ituri. Bilan, 13 morts et 4 expatriés chinois enlevés. Dans cette zone, il n'y a ni FARDC ni police présente, rapporte des sources concordantes. Il est nécessaire de capitaliser les opportunités qu'offre l'intégration de la RDC à la communauté des pays de l'Afrique de l'Est. C'est l'une des recommandations sorties des échanges hier à Kinshasa entre les opérateurs économiques venus des différentes provinces et les chambres de commerce, assises organisées par le ministère du Commerce extérieur. Et puis, l'invité de ce matin, Madame Douce Nyamwezi, directrice de l'ASBEL Uwezo Africa, elle nous parle du projet dénommé « Promotion de la culture comme vecteur du changement pour le développement et la cohésion sociale en RDC », projet lancé le lundi 8 août à Bukavu. Madame, Messieurs, bonjour. En Ituri, 13 personnes sont mortes et 4 expatriés chinois pris en otage par des éléments de la CODECO à Mandobo, secteur de Banyalikilo, dans le territoire de Djougou. C'était lors des combats qui ont opposé hier tôt le matin des éléments de la CODECO à ceux de la milice Zaïre à Tchangana et Madombo, deux sites miniers. Selon des sources de sécurité, ces Chinois exploitaient de l'or avec les Zaïrois au carré minier de Mandombo, communément appelé Bah. Le récit de Martial.
D'après des sources de sécurité, ce sont des miliciens du groupe armé Zaïre qui ont attaqué les premiers vers 6 heures du matin la position de la CODECO à Tchangana dans les groupements de Kirongozi. Ce dernier ont répliqué. Les affrontements se sont étendus jusqu'à la localité voisine de Mandombe, un carré minier où des Chinois exploitent de l'or avec la milice Zaïre. Une zone où ni les FARDC ni la police ne sont présentes. Des sources concordantes dans la zone affirment que ces affrontements qui ont duré plusieurs heures ont causé la mort de 13 personnes, dont des miliciens du groupe armé Zaïre. Un élément CODECO a par ailleurs été grièvement blessé. Ce bilan n'est pas encore confirmé par des sources officielles. Cependant, 4 citoyens chinois qui se trouvaient sur le chantier minier de Mandombe, communément appelé Bah, ont été pris en otage par des assaillants CODECO, puis acheminés à leur état-major, affirment nos sources. Ces groupes armés CODECO, IRDPC, reprochent à ces étrangers de collaborer avec la milice Zaïre pour l'exploitation illégal de l'or. Bounia, Martial Kizabiamongo, Radio Okapi.
Entre-temps, au Nord Kivu, cela fera d'ici demain 13 août, 2 mois que la rébellion du M23 occupe une partie du territoire de Rutshuru. Une dizaine de composantes de la coordination territoriale de la société civile locale, réunies en assemblée générale hier au chef-lieu du territoire, déplorent cette situation. Dans leur déclaration, ces acteurs dénoncent une trêve observée sur la ligne de front, alors que la population déracinée de ses biens souffre en déplacement. Le président de cette coordination dit que sa structure menace de mener des actions de pression sur le gouvernement congolais. Jean-Claude Bambazé le dit au micro. De Radio Kapi.
La société civile s'est réunie hier pour préparer une marche pacifique qui va commencer de Rutshuru vers Goma, siège des institutions provinciales, parce que nous observons un silence sur les lignes de front. Nos militaires FARDC n'attaquent pas l'ennemi, mais c'est plutôt l'ennemi qui se réorganise et après sa consolidation, c'est l'ennemi qui impose même les rythmes des combats à nos militaires, et chose qui est inacceptable pour nous, la société civile. Et que donc, nous pensons que si les militaires continuent à garder la défensive sans pour autant attaquer ces gens, ce sera une concession tacite de ces zones sous contrôle des M23, et cela a des conséquences néfastes sur les gens qui ont fui chez eux et qui attendent impatiemment de retourner dans leur domicile. Il est vrai qu'il y a des pourparlers, comme on a dit, le cessez-le-feu, mais quand l'M23 veut, il attaque, et nous continuons à garder le cessez-le-feu. Pourquoi ça? La semaine passée, ils ont attaqué Bukima, et où est ce cessez-le-feu? Donc, eux, ils peuvent attaquer quand ils veulent, et nous, on nous impose le cessez-le-feu. C'est pas normal.
Province du Maniema, 90 instructeurs commando ont fini leur formation de recyclage dispensée par des instructeurs belges. Cette activité a été marquée par la cérémonie de prise d'armes et la remise des diplômes hier. C'était en présence du gouverneur intérimaire du Maniema et des autorités militaires et policières. La formation a duré 3 mois et elle s'est déroulée au centre d'entraînement commando de Luama. Elle a porté sur des matières telles que les techniques commando, les combats sans armes, les premiers soins, la survie et le leadership. Florence Kiza, reportage.
Après quelques exercices et des démonstrations, ces militaires, dont une femme, ont tenu à prouver qu'ils ont acquis des capacités nécessaires pour être instructeurs à leur tour. L'un d'eux, le lieutenant Tchombe, témoigne.
Vraiment, c'est très bénéfique pour nous. D'abord, la somme auparavant des instructeurs. Et dans ces derniers temps, on vient encore de nous recycler par nos anciens instructeurs. Nous avons encore appris d'autres choses que nous n'avions pas eues auparavant. Et ça va nous aider aussi à recycler les autres unités de notre forces armées pour l'amélioration des techniques de combat.
Content du devoir accompli, les formateurs les ont exhortés de mettre en pratique les notions apprises. Commandant Rouen du détachement belge.
Chers instructeurs et aides-instructeurs, ceci n'est que le commencement. En effet, on caractérise un instructeur par la connaissance et la motivation dont il fait part, mais également par sa volonté de vouloir s'améliorer constamment. Je vous dirai donc ceci, n'hésitez pas à continuer votre entraînement afin de devenir toujours meilleur et à continuellement montrer l'exemple. C'est cette ligne de conduite qu'il vous faudra suivre et qui vous permettra d'accomplir votre tâche en tant qu'instructeur commando.
Les instructeurs nouvellement formés vont à leur tour former les militaires de la 31e brigade. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Au Maïndombe, la tension est loin de baisser dans le territoire de Kwamout autour du conflit interethnique qui oppose les peuples autochtones Teke et Yaka, qui sont les non-originaires. Mercredi, les Yaka, qui sont armés et vivent actuellement en forêt, ont tué 6 hommes en uniforme, parmi lesquels 3 policiers et 3 militaires dépêchés vers le village Ngamboni pour désarmer la population. Le député national élu de Kwamout, Guy Musomo, réclame un renfort militaire afin de rétablir l'ordre dans cette partie du pays. Guy Musomo est joint par Irène Boma.
Le gouvernement provincial de Maïndombe avait envoyé quelques policiers militaires pour mettre la sécurité ou bien désarmer les assaillants qui sont vers Ngamboni. Alors les militaires qui sont allés les désarmer ont été pris en étau par ces assaillants. Le bilan est de 3 militaires tués, plus aussi 3 policiers tués. Donc au total, un bilan de 6 morts du côté des militaires. Nous appelons toutes les autorités nationales, en commençant par le président de la République, le gouvernement, surtout le ministre de l'Intérieur avec ses services, de prendre des dispositions utiles pour envoyer des militaires qui sont cantonnés, par exemple, à Maluku, d'aller prêter main forte aux policiers qui sont restés dans ce coin-là. Nous appelons vraiment à faire tout dans un bref délai, même dès demain déjà, d'envoyer des militaires pour aller sauver la situation parce qu'elle l'air est très grave.
Je vous le disais en titre, l'intégration de la RDC à la communauté des pays de l'Afrique de l'Est était au centre des échanges à Kinshasa entre les opérateurs économiques venus des différentes provinces et les chambres de commerce. À la clôture hier de ces assises organisées par le ministère du Commerce extérieur en collaboration avec International Alert, des recommandations ont été faites pour que le pays s'élance à la conquête des nouveaux marchés ouverts par cette adhésion. D'autres détails avec Jody Daniel Kachama.
Les participants à ces échanges sont unanimes quant à la nécessité de capitaliser les opportunités qu'offre ce vaste marché. Cependant, il y a des préalables à réunir. Lucien Mouliri, vice-président de la FEC Ituri.
Parmi les principales, la réhabilitation des infrastructures routières. Il y a aussi la restauration de la sécurité. Nous pouvons également souligner la fiscalité qui a besoin d'être assainie et qui soit créée un climat des affaires favorable. Nous avons également cité le banque en donnant des crédits dit aux opérateurs économiques doivent le leur donner sur des longues périodes.
Madame Eugénie Salebongo, secrétaire générale au commerce extérieur, a promis de transmettre le cahier des charges élaboré aux autorités compétentes pour assurer une intégration réussie et pacifique de la RDC dans l'EAC.
Ils ont réfléchi et ils ont produit un cahier des charges que nous, les autorités, nous allons essayer de transmettre au plus haut niveau pour qu'ils voient comment on peut venir en aide aux opérateurs économiques pour les aider justement à s'intégrer dans cette communauté et être compétitifs. Si on est là, on n'est pas productif, c'est ça le danger.
Les participants à ces assises se sont engagés à mener des plaidoyers auprès de toutes les parties prenantes afin de rendre effectives ces recommandations.
Entre-temps, à Goma, une centaine de femmes petites commerçantes transfrontalières qui exercent à la petite barrière entre les villes de Goma et Gisenyi ont échangé avec l'autorité urbaine pendant 2 jours, soit mardi et mercredi, sur les défis liés à leur activité. Accompagnées par l'ONG Search for Common Ground, ces femmes ont fait part au maire adjoint des difficultés auxquelles elles font face. Elles ont plaidé auprès de l'autorité pour améliorer le climat des affaires dans ce secteur informel qui fait vivre un nombre important de la population. Plus de détails avec vous, Pele Kipela Mondo.
Parmi les problèmes évoqués, les femmes ont fustigé l'envahissement du marché local de détail par des petits commerçants des pays voisins, notamment du Rwanda. Ces vendeurs ambulants échappent au paiement des taxes et rabattent les prix au détriment des Congolais. En outre, les petites commerçantes transfrontalières ont déploré la multiplicité des taxes auxquelles elles sont soumises, ce qui les empêche d'évoluer, sans oublier les tracasseries des services étatiques à la douane. Pour sa part, le maire adjoint de Goma, le commissaire supérieur principal Kamande Kapende, tout en promettant de transmettre ses dollars à la hiérarchie, n'a pas manqué de prodiguer quelques conseils à ses commerçantes. Il a aussi fustigé la fraude récurrente observée dans les secteurs du petit commerce transfrontalier.
Province du Congo central. Le programme de développement à la base de 145 territoires a déjà produit du fruit dans le territoire de Songololo où il a été lancé par le Premier ministre. On parle de la construction du tronçon Congo-Diakati-Songamani dans le secteur de Kimpese. L'administrateur de Songololo qui livre cette information affirme que cet axe réhabilité permettra à cette province de participer aux activités du service national. Nana Plurich Mambou, reportage.
Long de 52 km, les tronçons Congo-Diakati qui mènent jusqu'à la frontière congolo-angolaise de Lovo, en passant par Songamani où se trouve le site du service national, a été réhabilité entièrement. Les travaux ont été réalisés après la pose de la première pierre par le premier ministre Sama Lukonde le 31 octobre 2021, donnant ainsi le coup d'envoi de la mise en œuvre du programme de développement à la base des 145 territoires dans le Congo central. Ces mêmes jours, le chef du gouvernement avait également procédé à Kimpese au lancement des travaux de construction de Vuzilandu, du centre de santé Papa Simon Kimbangu, ainsi que de quelques forages d'addiction d'eau potable. D'après Daniel Eloko, administrateur du territoire de Songololo, seule la route a été réhabilitée jusqu'ici. Dans les 3 autres sites, les travaux n'ont toujours pas débuté. Selon lui, l'axe routier qui a été réhabilité revêt une importance capitale sur le plan local et même national, car il permet notamment l'évacuation vers Kinshasa de plusieurs tonnes de maïs produits par les services nationaux. Daniel Eloko rassure que la réhabilitation de certaines écoles et centres de santé réclamés par la société civile a été prise en compte dans les premiers volets du programme de développement à la base des 145 territoires. Matadi, Nana Plurich Mambou, Radio Okapi.
Rendons-nous à Beni. On assiste à une série de destructions des lampadaires d'éclairage public sur l'axe routier Ngui-Tema-Vivi, lampadaires installés par la MONUSCO, précisément dans le quartier Nzuma, long d'au moins 4 kilomètres. Les autorités locales, qui se disent choquées par cet acte de banditisme et d'incivisme, appellent les jeunes à veiller sur la sécurisation des lampadaires restants et à dénoncer les auteurs de ces actes. Des précisions avec Marc Marofimbo.
Ce sont des lampadaires installés par la MONUSCO dans le cadre de son projet d'impact rapide qui consistait à la réduction des violences communautaires depuis 10 ans, car plusieurs incidents sécuritaires étaient enregistrés dans cette zone, voire les attaques nocturnes des EDF. Mais depuis 3 semaines maintenant, une dizaine de lampadaires ont été détruits et leurs panneaux solaires ainsi que les batteries volées. Un acte qui provoque les courroux des autorités locales qui parlent ici de ses conséquences. Josué Kapisa est le chef du quartier Nzuma.
C'est très déplorable et inquiétant parce que les bandits va encore surgir. Mais aussi, nous sommes dans une zone à pro avec la sécurité, avec l'éclairage, même s'il y a un crucial et quoi, les gens étaient en train de se fouiller à l'éclairage pour essayer de voir peu loin et puis fuir. Et pour la population de notre quartier, on leur interpelle. Donc la population doit veiller sur les lampes qui restent.
Josué Kapisa s'inquiète du fait que la majorité des lampadaires détruits et leurs pièces volées se trouvent à côté des positions militaires implantées le long de cet axe routier. Il demande aux forces armées de sécuriser ces lampadaires qui permettent la sécurisation de la population, même pendant les heures tardives, et aux jeunes de dénoncer les auteurs de cet acte incivique. Beni, Marc Marofimbo, Radio Kapi.
Actualité, Afrique Monde.
1 million de personnes déplacées à la suite de la sécheresse historique qui frappe la Somalie. Ceci plonge ce pays de la Corne de l'Afrique dans la famine. Plus de 700 000 personnes ont trouvé refuge à l'intérieur du pays, alors qu'environ 300 000 autres ont décidé de fuir à l'étranger. Des chiffres publiés jeudi par l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés ACR et le Conseil norvégien pour les réfugiés. Ces organismes tirent déjà la sonnette d'alarme. Il n'y a littéralement plus d'eau ni de nourriture dans leur village. Il est urgent d'augmenter le financement de l'aide avant qu'il n'y soit trop tard. En France, le feu de forêt continue à ravager le sud-ouest du pays. Pour y faire face, la France va recevoir des renforts en avions et pompiers de l'Union européenne ainsi que de 5 pays européens. Plus de 6800 hectares ont brûlé depuis mardi, indique la préfecture des Gironde.
L'invité.
Promouvoir l'art et la culture pour le développement et la cohésion sociale en RDC, c'est l'objectif poursuivi par l'ASBEL Uwezo Africa Initiative. Elle compte atteindre cet objectif à travers le projet dénommé « Promotion de la culture comme vecteur du changement pour le développement et la cohésion sociale en RDC ». Lancé le lundi 8 août à Bukavu, ce projet intervient dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'appui au secteur de la culture dans la région des Grands Lacs. Pour en savoir plus, nous recevons Madame Douce Nyamwezi, directrice de l'ASBEL Uwezo Africa, et s'entretient avec Rachel Kiesse.
Douce Nyamwezi, bonjour.
Bonjour.
En quoi va constituer le projet promotion de la culture comme vecteur de changement pour le développement et la cohésion sociale en RDC que vous lancez à Bukavu?
Ce programme va, comme le titre le dit, à travers l'art et la culture, contribuer à ce que nous puissions voir le développement et la cohésion sociale s'améliorer dans notre secteur. Nous allons travailler sur 4 piliers au niveau de ce programme pour y arriver. Premièrement, on va travailler sur les cadres légaux et réglementaires qui sont méconnus, qui ne sont pas adaptés à notre contexte. On va travailler suffisamment avec le ministère de la Culture, parfois aussi les députés provinciaux ou nationaux pour statuer vraiment sur les lois qui peuvent réglementer les secteurs culturels, puis c'est un secteur où il n'y a pas beaucoup de normes, ou s'il y en a, ce sont des normes qui ne sont pas très bien connues. Également, nous allons travailler sur le renforcement de capacité des artistes et des opérateurs culturels, de tous ceux qui travaillent au fait derrière l'artiste, et nous allons faire de formation continue, octroyer des stages, travailler vraiment de façon étroite pour amener l'artiste à vivre de son art et à se professionnaliser. Nous allons travailler sur l'augmentation de l'offre au niveau de la province du Sud Kivu, mais également dans d'autres provinces telles que le Nord Kivu et Kinshasa. Nous allons enfin travailler également sur quelques appuis à des initiatives innovantes qui vont contribuer à ce que les secteurs culturels soient de plus en plus dynamique et puisse véhiculer des messages de paix et de cohésion sociale, peu importe la filière, mais qu'il y ait vraiment cette même vision partagée.
Ce projet lancé dans le cadre du programme d'appui au secteur de la culture Grand Lac, de quoi s'agit-il?
C'est un programme régional qui implique la RDC, le Rwanda et le Burundi. C'est un programme soutenu par la coopération suisse au niveau de la région, puisqu'on voudrait vraiment favoriser des échanges culturels au niveau du Rwanda, du Burundi et même au niveau international. Et c'est pour cela qu'il y aura des événements culturels qui vont mettre ensemble les artistes du Rwanda ou du Burundi, qui vont faire venir des artistes au Congo, qui vont amener les artistes congolais en dehors du Congo. Le programme lui-même s'inscrit dans ce volet régional, mais aujourd'hui on a lancé ce qui va se passer concrètement au Congo. Mais il y a le Rwanda et le Burundi également qui dans les jours prochains vont aussi lancer les mêmes programmes dans leur région.
Vous avez lancé le projet aujourd'hui, ça sera quoi la suite?
Ce lancement intervient au moment où il y a déjà des actions culturelles qui sont subventionnées. Il y a le programme de formation qui va également commencer et surtout les cadres de concertation avec le gouvernement qui va maintenant avoir forme puisqu'il fallait que le lancement ait lieu pour que le ministère puisse maintenant commencer à convoquer les rencontres avec les artistes. Il y a maintenant la possibilité d'octroyer des bourses aux artistes qui ont des opportunités d'apprentissage en dehors du pays. Chaque année, il y aura une évaluation puisqu'il s'agit ici d'une première phase qui est à 4 ans. Chaque année, il y aura une évaluation et une présentation de résultats à mi-parcours. S'investir davantage sur ce qui marche et essayer de corriger ce qui n'a pas marché.
Hormis le côté formation, y aura-t-il des activités en salle ou en plein air et quelles seront ces activités?
Il y aura beaucoup d'activités culturelles. Il y a par exemple le festival du rap et d'islam qui vient d'avoir lieu à Bukavu. Ils ont reçu une contribution de ce programme pour que l'événement ait lieu. Il y a tous ces espaces culturels qui vont inscrire leur programmation par rapport à ce programme. Ça sera les artistes et les opérateurs culturels qui vont mettre en œuvre ou faire vivre le programme en soi.
Il a été constaté que beaucoup d'artistes ne sont pas en ordre par rapport aux cartes d'identification pour artistes. Qu'est-ce que vous ferez pour que les artistes du Sud Kivu soient mobilisés à cet effet?
Nous parlions de ce cadre de concertation permanent qui va se focaliser sur les aspects culturels qui vont effectivement statuer sur ces genres de problématiques. À travers ce genre de rencontres, on va amener le gouvernement à prendre des décisions et les artistes à les observer. Nous espérons également que, à travers de recherches et de plaidoyers qui seront menés, on va pouvoir arriver à l'obtention de solutions qui sont adaptées à notre secteur culturel et surtout à pouvoir répondre de façon efficace à ce problème-là.
Douce Namwezi, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi.